Voilà, nous arrivons maintenant à cette nouvelle demande dans le Notre Père, la cinquième demande. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une demande assez délicate parce que tout de suite on se pose la question et se dit, quelquefois j'ai du mal à pardonner, je vois mes résistances et donc Dieu lui-même me pardonnera-t-il si moi-même je n'arrive pas à pardonner? Vous voyez, on est tout de suite dans le vif du sujet. C'est pour ça que le pardon est difficile. Il y a des caractères, des natures qui sont plus facilement portées au pardon et d'autres qui ont toute leur vie à lutter contre la difficulté à pardonner, le désir de vengeance, la rancune. C'est pas forcément envers tout le monde, mais envers telle personne, il y a quelquefois des rancunes très anciennes, des vengeances tapies au fond du cœur qui empoisonnent toute la vie. Ça semble bien donc difficile. Je pars de cette parole de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Pardonner aux hommes, les prendre en pitié, est œuvre plus grande que la création. Et puis il y a une autre parole aussi que je mets en tête de cette méditation du père Pierre d'Escouvemont, qui dit ceci: le véritable pardon n'écrase pas celui qui le reçoit. Le véritable pardon n'écrase pas celui qui le reçoit. Il y a une façon merveilleuse de pardonner qui laisse entendre: si j'avais été à ta place, qui sait si je n'aurais pas fait pire encore. Et puis, je pensais la mettre au long de la méditation, mais je vais en fait commencer par cette histoire relatée dans un livre dont je vous ferai la publicité à la fin, de Pascalide, qui s'intitule « Est-il possible de pardonner ?» Je vous en parlerai à la fin. Il parle d'un petit fait qui a eu lieu en 82. Et je vais vous le lire, même si c'est un petit peu long. C'est pas très compliqué. Le 6 novembre 1982, dans les jardins du Trocadéro, Chantal, 18 ans, est assise à côté de Frédéric, 19 ans. Ils s'aiment. Délirant, il appuie son doigt sur la gâchette et la tue. Le vendredi 5 octobre 1984, Frédéric se retrouve à la cour d'assises et déclare: je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas de remords. La tuer était une solution qui me permettait de la préserver des autres, de garder Chantal éternellement. Puis, le père de Chantal témoigne d'une voix posée. Et soudain, tout bascule dans cette tragédie malheureusement banale. Le père: je suis sûr que Chantal est dans la vie, dans la joie. Je suis d'abord un père, ensuite un catholique, et je veux faire passer cela dans ma vie. J'ai été peiné par le départ de Chantal, mais je sais qu'elle est heureuse. Mon souci aujourd'hui, c'est Frédéric. Je ne serais pas plus ému si c'était un de mes fils qui se trouvait à ma place. Je veux l'aider pour que sa vie ne soit pas gâchée. Mon souci, c'est son avenir quand il sera sorti. J'ai prié pour lui, voilà. Les jurés, cette femme, deux hommes, ont les larmes aux yeux. Maintenant, ils entendent la mère de Chantal, le même son, comme irréel. Dès qu'elle a connu Frédéric, Chantal a pensé qu'il fallait l'aider, s'en occuper. Nous l'avions mise en garde. Mais elle était généreuse et imprudente. Et puis elle était tentée et tentante. Elle le voyait beaucoup trop souvent. Elle ne nous a pas dit qu'elle ne s'en sortait pas. Frédéric avait le regard de quelqu'un hors du monde. Elle m'avait dit « C'est un enfant, le malheureux. » La maman de Chantal, la mère de 9 enfants, exprime sa foi. « Quand on est chrétien, on ne juge pas. J'ai pardonné. Puis j'ai reçu une lettre de Frédéric me demandant pardon. J'ai voulu aller au-delà, rencontrer les parents de Frédéric, partager avec eux cette situation terrible. C'est Frédéric qui a besoin d'aide. » Frédéric baisse les yeux pour cacher ses larmes. La maman de Chantal se tourne vers lui. « Vous ne savez que vous n'êtes pas seul. » Deux sourires s'échangent, ceux de l'ineffable. Je ne termine pas l'histoire, mais nous sommes ici dans un climat assez exceptionnel qui nous permet d'entrer maintenant dans cette méditation. Pour tout le monde n'arrive pas forcément à cette expérience-là d'un pardon difficile à donner, et il n'a pas été facile. Mais il faut commencer par se demander qu'est-ce que c'est que le pardon ? Et pour savoir ce qu'il est, au fond, paradoxalement, il faut commencer par dire ce qu'il n'est pas. Alors, je note ici plusieurs choses, si vous voulez. C'était un petit peu une réflexion personnelle, elle n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous donner quand même quelques pistes. D'abord, le pardon n'est pas le simple ajustement. Bon, quand on vit dans une vie de communauté, on connaît ça, dans une vie sociale, dans une vie en couple, elle qui prend toujours la brosse à dents du mari pour se laver les dents, par exemple. Il ne s'agit pas là d'un pardon à donner, il s'agit quelquefois d'un ajustement. Il faut redire un petit peu les choses, mais ce serait quand même bien que chaque matin on voit un peu les choses en ordre dans la salle de bain. C'est un exemple au hasard. Voilà. Le pardon, ce n'est pas le simple ajustement. Ce n'est pas la mise au point. Mais il y a aussi une deuxième chose. Le pardon, ça ne peut pas être le déni. Le déni, c'est une attitude relativement courante chez les personnes qui n'aiment pas le conflit. Ils ont été offensés, il y a une offense qui est là, il y a une faute qui est réelle. Par exemple, un mensonge, un dénigrement. Et la personne prend la fuite, si vous voulez. Elle dit, bon, la personne, il m'a offensé en parlant à tort et à travers. Elle m'a offensé en mentant sur ce qu'elle avait fait hier. C'est pas. Je préfère ne pas en parler. Je ne dis rien. Et souvent, le déni vient du fait qu'on n'aime pas le conflit et surtout, on ne veut pas perdre l'autre. On ne veut pas perdre la bienveillance, l'amitié de l'autre, l'amour de l'autre. Donc, on se tait. Parce qu'on se dit que si on en rajoute, si ça va être une escalade, si on pointe le doigt sur le mal qu'il nous a fait, eh bien, voilà, l'amitié sera rompue, la relation s'éteindra. Donc, on dénie. Mais le problème du déni, c'est qu'il engendre dans le cœur les murmures, le murmure. Vous savez, tout ce qui est non-dit s'accumule, les non-dits s'accumulent, et à un moment donné, la cocotte explose. Et ça peut être 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Et pareil dans une vie conjugale. Ah, mais je le savais de toute façon depuis le début. Ma mère m'avait prévenu. Souviens-toi, 3 jours après notre mariage. Et puis alors là, les souvenirs reviennent, parce que comme ils n'ont pas été évacués, on les garde, on les a fait réchauffer, on les a mitonnés à la sauce de la vengeance pendant 15 ans, pendant 20 ans. Et alors là, l'autre, pour une petite broutille, se voit complètement descendre. Donc le déni n'est certainement pas la solution quand une offense a été faite. Le pardon n'est pas non plus l'oubli. Pour plusieurs raisons. C'est aussi une certaine attitude de fuite. Bon, c'est oublié. On n'en parle plus. On dit souvent ça aux enfants. Allez, tu pardonnes à ton petit frère, et après c'est oublié, on n'en parle plus. Ce qui peut être bon pour l'enfance, pour lui montrer qu'on n'a pas à revenir sur l'offense. On ne revient pas dessus. Mais il y a des choses, quelquefois, qui ne s'oublient pas. Une infidélité notoire. On imagine un enfant qui, par colère, ça est arrivé, c'est arrivé encore hier, tiens, chez tes amis, un petit enfant qui maîtrise pas ses colères, qui avait été relativement odieux, et sa maman lui dit, écoute, cette fois-ci c'est fini, tu vas dans ta chambre, je ne veux plus t'entendre jusqu'à ce soir. Le petit est allé dans sa chambre, il revient le soir, au moment du dîner, et sa maman lui dit, mais où sont tes lunettes? Tu n'as pas tes lunettes, va chercher tes lunettes. Le petit enfant dit, je ne trouve plus mes lunettes. Va chercher tes lunettes. Mais je ne sais pas où elles sont. Écoute, tu vas chercher tes lunettes. Alors, il va dans sa chambre, et puis il rapporte ses lunettes cassées en 3 morceaux, 4 morceaux, 7. Et on lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis assis dessus. Gros mensonge. Elles avaient été cassées bien habilement, tordues jusqu'à être cassées. Et il avait pris toute cette colère là, et il l'avait exercée sur sa paire de lunettes. Ça, si vous voulez, quand on voit ensuite la facture de la nouvelle paire de lunettes, on ne peut pas l'oublier. Et il y a quand même un pardon à donner. Bon, à un moment donné, il y a un pardon. Mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Une scène de ménage où tout le service de mariage y passe, on peut penser à un pardon après une réconciliation, mais il n'y a plus de service. Voilà. Bon. Et une autre raison, c'est que l'oubli, c'est un acte de la mémoire. Le pardon, c'est un acte de volonté. Ça n'est pas du tout les mêmes facultés. Je te pardonne. Alors, il y a un dessin très humoristique de Sempé, vous savez, dans un petit fascicule qui s'appelle Quelques mystiques, où on voit les grands dessins de Sempé, c'est des grands décors majestueux avec tout petits bonhommes. Et vous avez un tout petit bonhomme en haut d'une colline avec grand espace autour de lui, et puis un nuage et un rayon de soleil qui représentent la voix céleste, Dieu. Et on voit ce petit bonhomme qui s'adresse au ciel, avec un doigt levé vers le ciel, et puis une main derrière le dos, et qui s'adresse à Dieu en disant « J'ai pardonné à tous mes ennemis. » Mais j'ai la liste. Alors, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu la caricature, si vous voulez, du pardon. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Bon. Mais parce que l'oubli est un acte de la mémoire. Seulement, pardonner, ça veut dire « je ne reviens pas sur ce qui s'est passé ». Même si il reste des traces. Donc, voilà, le pardon n'est pas l'oubli. Et enfin, dernière chose, le pardon n'est pas non plus l'excuse. Parce que l'excuse enferme, alors que le pardon libère. Dire à quelqu'un, quand il vous a offensé, que cette offense est réelle, mais en même temps, et qu'il demande votre pardon, humblement, je te demande pardon, et que vous lui dites tout simplement et platement, je t'excuse, vous voyez, c'est une gifle incroyable, parce que vous n'avez pas pardonné, vous avez excusé. C'est-à-dire, un peu comme vous dites, bah, de toute façon, tu n'es pas capable de faire autre chose. Tu n'es pas capable de mieux, donc je t'excuse. Vous voyez, l'excuse en reste là, mais ne libère pas ce qui doit être libéré dans le pardon. On reviendra là-dessus. En général, on excuse une erreur qui est due souvent à des circonstances qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je suis en retard, excusez-moi, je n'ai pas calculé le temps de métro, il y a eu une grève, il y a eu une panne, voilà. On excuse une erreur dans un compte, quand vous faites les comptes à la fin du mois et que vous dites « Ah, chérie, nous sommes à moins de 1000 euros. » Bon, ben, t'as peut-être fait une petite erreur, je t'excuse. Vous voyez ? Mais on enferme. Voilà. Alors, si le pardon n'est ni l'ajustement, ni le déni, ni l'oubli, ni l'excuse, qu'est-ce que c'est que le pardon ? Le pardon, c'est une remise de dette. L'offense, le mal causé à autrui, a engendré une dette chez l'offenseur. Il doit réparer, en quelque sorte. La traduction du Notre Père dans l'évangile de saint Matthieu, c'est exactement cela. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et en fait, une faute atteint l'autre. Elle a atteint l'autre dans ce qui lui est dû en justice. Le mensonge a atteint à la vérité qui est due à l'autre, quand elle lui est due. Le vol à la propriété. La calomnie à la réputation. La réputation d'une personne, etc. C'est pour ça que la parabole du débiteur impitoyable est très parlante, parce que la notion de justice porte sur un bien concret très manifeste, un débiteur qui devait 10 000 talents, 1 million de pièces d'argent. La personne au départ est en droit de demander justice, réparation. Seulement, est-ce que le pardon est un acte de justice ou est-il un acte d'amour ? S'il est un acte de justice, il ne peut pas être un acte de justice. La justice est due, le pardon ne l'est pas. On n'a jamais vu quelqu'un dire « tu dois me pardonner ». Mais je te demande pardon. C'est un acte. Voilà. C'est bien ça qui est un petit. C'est ce qui fait une des difficultés du pardon. Si la personne est en droit d'exercer la justice, de demander réparation, et on le voit dans l'Ancien Testament d'ailleurs, hein, œil pour œil, dent pour dent, pour éviter l'escalade de la vengeance, néanmoins le pardon doit aller plus loin, va plus loin. Mais le pardon n'est-il qu'un acte d'amour? Il n'est pas simplement un acte d'amour, parce qu'un acte d'amour qui ne respecte pas la justice devient un acte injuste. Et on se retrouve très facilement dans le déni, on se retrouve très facilement dans l'oubli. Et dans les pardons demandés à Dieu, en général, on demande, il y a une réparation. C'est ce qu'on appelle la pénitence. Et une réparation d'ailleurs qui n'est jamais à la hauteur de la faute qu'on a commise. Il faut comprendre pourquoi d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut jamais réparer à la hauteur de la faute qu'on a faite à Dieu. C'est pas possible. Et puis, pour comprendre aussi que le seul qui a réparé la faute de l'homme, c'est le Christ. Donc, le pardon est un acte d'amour lié à la justice. Plus profondément, comme je le disais tout à l'heure, c'est un acte de libération. Dire à l'autre, je te pardonne. C'est profondément un acte par lequel on va libérer l'autre. De quoi? De sa dette. On remet la dette. En toute justice, on reconnaît le mal. Il faut reconnaître le mal. Sinon, il n'y a pas de pardon. Le pardon doit porter sur une faute objective, pas sur un ressentiment. Pas sur quelque chose de complètement subjectif. Pensez que parce qu'une personne vous a regardé de travers, elle vous en veut, c'est quand même un peu léger. Si on est éperdument amoureux d'une personne et que dès qu'on est dans la rue, l'autre personne commence à regarder à droite à gauche et qu'on sent monter en soi un sentiment de jalousie et que au soir de la journée, on dit « Écoute, vraiment, est-ce que tu n'aurais pas un pardon à me demander ?»« Ah bon, pourquoi ?» « Eh bien écoute, ton regard a traîné un peu partout. »« Ah bon ?» Voilà, on ne sait plus trop où on en est. Voyez. Et c'est ça qui est très important, c'est que le pardon doit passer par une reconnaissance objective de l'offense réelle et pas une sorte d'interprétation à chaque fois. Surtout quand on est, vous savez, des tempéraments un peu susceptibles. On voit des fautes partout. Ah, mais non, je suis blessé. À chaque fois qu'on me parle, je suis blessé à mort. Il faut se calmer un petit peu, quand même. Ça va être l'effort du tempérament susceptible de se dire que, ben, chaque fois qu'une personne, telle personne vous parle, c'est pas qu'elle vous en veut. Ou parce qu'une personne est un peu. À un tempérament énergique ou un peu colérique, ben elle en veut la terre entière, quand même pas. Donc, vous voyez, besoin de dire, la parole est très importante, besoin de dire l'offense réelle pour savoir s'il y a effectivement un pardon à demander. Et le pardon va s'exercer entre l'offenseur et l'offensé. Il suppose une demande et une réponse. S'il n'y a pas de demande de pardon, on peut être soi-même disposé au pardon. Et on peut demander d'ailleurs dans la prière chrétienne de disposer notre cœur à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais tant qu'il n'y a pas une demande explicite, le cœur est disposé, le cœur devient bienveillant, Et le cœur sera disposé à donner le pardon quand la personne va le demander. Mais quelquefois, la personne, elle, ou bien elle ne l'a pas vu, elle n'a pas vu l'offense, c'est possible. Ou bien elle doit faire tout un travail pour apprendre humblement à demander pardon. Et nous, on peut être des deux côtés. Hein. On peut être l'offensé, mais on peut être aussi l'offenseur. Et on peut aussi nous-mêmes avoir des efforts à faire dans le fait d'apprendre à demander pardon, ce qui n'est pas facile. C'est pas facile parce que ça suppose l'humilité. La disposition fondamentale, c'est l'humilité. Reconnaître qu'on a offensé quelqu'un. Avant de se dire et de se justifier en disant « Ah oui, mais tu sais, mais de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. » C'est pour ça que finalement, vous voyez, il y a peut-être beaucoup de petits pardons qu'on se donne, mais des pardons réels, profonds, dans notre vie, en principe, ils nous ont marqués. Les pardons qu'on a donnés, ou les pardons qu'on a reçus, les pardons qu'on a demandés. Et l'offensé, lui, va poser un acte qui est éminemment personnel et éminemment libre. Le pardon n'est pas un dû. Et cela suppose, à ce moment-là, un certain courage peut-être, une vérité en tout cas, mais une certaine magnanimité, en même temps qu'une humilité. Accepter de remettre la dette, de ne pas demander réparation. Je te pardonne, je remets la dette. Ce que tu me dois en toute justice, je te le remets. Et on peut se demander, mais alors, sur quoi peut se fonder le pardon? Sur quoi puis-je m'appuyer? Vous savez, comme le fond de la... Parce qu'on est, quand on est offensé, on est un peu au fond de la piscine. Hein. Donc, sur quoi vais-je m'appuyer pour remonter à la surface et avoir cette magnanimité du pardon? Il faut penser à ce moment-là aux grands pardons qui ont été donnés. Et justement à l'histoire que je vous ai racontée au début de cette méditation. Ce qui peut être la force du pardon, c'est le fait de rétablir l'autre dans la confiance et dans la capacité qu'il a de nous aimer. Et de le libérer du mal qu'il a fait, parce que nous comprenons que le mal qu'il a fait l'a détruit lui-même. L'enfant qui arrive et qui va mentir à ses parents pour se tirer d'affaire. Pensez aux lunettes. L'enfant qui veut se tirer d'affaire, la maman, le papa, à un moment donné, vont lui pardonner, vont apprendre à l'enfant à dire « Mais demande pardon. Si tu ne demandes pas pardon, je ne peux pas te pardonner. C'est pas automatique, c'est pas un dû. » Et en pardonnant, je te libère de ta faute, je te rétablis dans l'alliance qui est la nôtre, dans l'alliance d'amour, dans la relation d'amour, et surtout je te libère de ce mal qui te ronge, le mensonge. Parce que si tu restes enfermé dans le mensonge, plus personne n'aura confiance en toi. Tu te détruis. Pardonner une infidélité, et quelquefois demande beaucoup de temps. Ça, c'est aussi une autre question sur le pardon, le temps que ça prend. Que peut prendre le pardon quand on est, plus on est touché à l'intime de nous-mêmes et plus le pardon va prendre du temps. Une personne qui vous écrase le pied sur le trottoir devant les Galeries Lafayette, bon, vous demandez pardon, mais elle ne vous a pas atteint à l'intime de vous-même, vous ne vous connaissez à peine, elle dit, écoutez, je vous demande pardon, et vous répondez, bon, écoutez, très bien, pardon. C'est rien du tout, c'est l'affaire de rien. Mais une infidélité, ça va prendre du temps. Il va falloir se disposer. Parce que là, la confiance, la capacité d'aimer a été atteinte très profondément. Et il ne faut pas avoir peur que le pardon prenne du temps. Parce qu'il y a toute une reconstruction. Mais en même temps, vous voyez, ce que l'on fait, c'est que on... Quand la personne dit « je te pardonne cette infidélité, je te rétablis dans ta capacité d'aimer, j'accepte à nouveau ton amour. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas fait pour cette infidélité. Tu n'es pas fait pour l'infidélité. » Ça, c'est vraiment le socle à partir duquel on remonte à la surface. Où l'offensé est capable de dire « mais je lui pardonne parce que je comprends qu'il n'est pas fait pour ce mal qui m'a offensé, mais qui le détruit lui-même, qui l'a détruit elle-même. » Remarquez bien que quand le Christ pardonne à ses bourreaux, alors il y a le fait que ce n'est pas lui qui pardonne. L'offense ici, il est en train de la subir, elle est peut-être tellement douloureuse et tellement blessante, puisque ça conduit le Christ à la mort, qu'il ne peut pas lui-même dire « je vous pardonne ». Mais c'est surtout qu'il se tourne vers le Père. Et il nous apprend d'ailleurs que pour les pardons les plus difficiles, il faut s'en remettre au Père qui est la source de tout pardon et de toute miséricorde. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pour, vous vous êtes demandé pourquoi il disait ça. Il dit ça parce que les bourreaux, imaginez les bourreaux quelques jours après. Quelques jours après, ça va être la résurrection. 50 jours après, ça va être la Pentecôte et la mission de l'Église. Peut-être que ces bourreaux vont entendre les disciples. Peut-être que ces bourreaux vont être stupéfaits par l'événement de la résurrection. Et là, ils vont se dire, mais qu'avons-nous fait ? Il n'y a pas de plus grande faute. Vous voyez ? Et si le Christ, dans un amour inouï, dit cette phrase pour qu'elle soit entendue d'eux, pour qu'ils ne se réduisent, pour qu'ils ne s'enferment pas dans cette faute. Père, pardonne-leur. Et que, alors même qu'ils étaient les bourreaux, ils ont entendu la parole du pardon. Le pardon est donc un acte de libération profond, mais un acte libre et personnel, de personne à personne. Dans le sacrement du pardon, c'est très très important. Redécouvrir que quand on demande pardon dans le sacrement, on ne va pas simplement soulager sa conscience. Mon père, je viens de demander pardon, j'en ai tellement sur le cœur, il faut que je parle. Bon, bah, parlez. Pas trop longtemps quand même. Dites sobrement, simplement, vos péchés et pas autre chose. Mais on peut, on a besoin de soulager sa conscience, on a besoin d'une oreille qui écoute, on a besoin de dire. Mais le pardon de Dieu n'est pas un acte psychologique d'apaisement. Ça, c'est l'effet, la paix. Mais il faut savoir, il faut se rendre compte de ce qu'on fait quand on demande pardon au Seigneur. Dans la petite lumière tamisée du confessionnal de Saint-Louis-d'Antin. On demande à Dieu un acte que seul il peut librement me donner ou non, et que s'il me le donne, son pardon. C'est que je ne lui suis pas indifférent. Et que je ne suis pas un être parmi des milliers, des milliards d'autres, dont Dieu serait comme ça au-dessus, complètement indifférent. C'est qu'il m'aime à un point incroyable, beaucoup plus que je ne m'aime, pour me rétablir dans son alliance, dans son amour que j'ai rompu. Et d'ailleurs qu'il me connaît infiniment mieux que je ne me connais. Et qu'il a une espérance et une confiance en moi beaucoup plus forte que je ne peux en avoir. Mais c'est un acte. On demande à Dieu, dans le sacrement de la confession, l'acte le plus libre et personnel qu'il puisse nous donner, parce qu'il le donne à chacun. Donc c'est un acte de libération, entièrement libre. J'avance un peu parce que je m'aperçois que je n'aurais pas fini aujourd'hui sur le pardon. Pourquoi le pardon est-il difficile ? Je vous l'ai dit, en fait, c'est la récapitulation de tout ce que je vous dis, parce que c'est un acte d'amour uni à la justice. Je reconnais ma faute. Ensemble, on reconnaît une offense réelle, un tort. J'insiste là-dessus. Hein. On n'est pas dans la surinterprétation. « Ah, mon père, vous avez vu tout ce qu'il m'a fait, etc. » On n'est pas là-dedans. On reconnaît humblement ses torts. Vérité, justice et amour. C'est parce que je t'aime que je te pardonne. Et parce que je veux pour toi te retirer du mal. C'est d'une puissance incroyable. Quand saint Thomas d'Aquin dit que c'est plus grand qu'un acte de création, mais oui, c'est un acte de recréation, le pardon. Mais dans la phrase, on dit « Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Il y a un petit hic quand même là. C'est le comme nous. Alors ça, c'est très difficile, c'est assez délicat, parce que c'est sûr que si on regarde les choses d'une façon purement horizontale, nous, dans notre relation aux autres, on se dit quelquefois oui, quelquefois non. Quelquefois c'est facile, quelquefois c'est difficile, quelquefois je veux bien, quelquefois je veux pas. Et on se dit, ben alors effectivement, le Seigneur, s'il use avec moi comme moi j'use avec d'autres. Et puis vous savez, il y a quelque chose d'un peu assez incroyable dans le pardon, c'est que ça, c'est très drôle quand on demande à des fiancés. On entend d'abord la question de la fidélité et donc du pardon. Est-ce que vous êtes prêt à tout vous pardonner ? Ah, on baisse la tête. Et alors on dit, ah ben oui, les petites choses, oui. Ah ben les petites choses. Et puis les grandes. Les petites infidélités, oui. Mais les grandes infidélités. Ah oui, mais là non. Ah ben là, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah ben oui, mais alors à ce moment-là, si je peux pas, il y aura un blocage. Vous voyez, on dit le pardon jusqu'à un certain point. Et puis après, ben non, c'est pas possible. Et alors, si c'est pas possible, le couple à ce moment-là est en danger. La relation d'amitié, d'ailleurs, est en danger. Donc, je reviens à mes moutons, là. Si on voit d'une façon purement horizontale, on se dit, mais comment Dieu va-t-il me pardonner ? il ne faut pas oublier le régime de la grâce. L'exercice du pardon, c'est l'exercice de la miséricorde. Le Seigneur le dit dans l'évangile de Saint Luc, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » En Saint Matthieu, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait, comme votre Père céleste est parfait. » En reprenant le livre du Lévitique. « Et vous, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Nous sommes dans le régime de la grâce. C'est-à-dire que l'amour de Dieu nous a précédés. Si nous sommes miséricordieux, c'est parce que Dieu a d'abord été miséricordieux avec nous. C'est Saint Jean qui le dit. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Dieu, lui, nous a aimés le premier. Je ne suis pas baptisé en raison de mes mérites. Je ne suis pas ce que je suis devenu en raison de mes mérites, comme si Dieu m'aurait déjà couronné d'avance avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis tellement bien. Non. Sa grâce est antérieure à tout mérite. Le baptême m'a inscrit tout de suite, déjà, dans l'alliance avec lui, dans son amour, et il me l'a donné. Le Christ ne m'a pas attendu pour m'aimer. C'est précisément parce qu'il m'aime qu'il m'a donné la vie. La vie, c'est le premier don de l'amour de Dieu pour moi. Dieu ne regarde pas un petit peu les milliards d'êtres humains en disant « Oh, bah tiens, celui-là, tiens, je vais l'aimer. » C'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne la vie. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il se révèle à nous. L'amour de Dieu nous précède. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Voilà ce que dit le Père Cantalamessa dans un petit livre dont je vous ferai aussi la publicité à la fin. L'amour agapé est à circuit ouvert. Il vient de Dieu et il retourne vers Dieu, mais en passant par le prochain. Jésus a inauguré lui-même ce nouveau genre d'amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il y a une très belle petite méditation du Père Cantalamessa qui revient à ceci. Il y a le commandement nouveau du Christ. Le scribe qui vient vers Jésus et qui lui dit « Maître, quel est le plus grand des commandements ?» Le Seigneur lui dit « Voilà le premier de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Bon. Mais là, Jésus ne fait que redire l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est dans une relation à deux. Et il dit d'ailleurs, il ne dit pas tu aimeras ton prochain comme tu aimes Dieu. Pour une raison d'ailleurs assez simple et évidente, c'est qu'on peut toujours tricher sur l'amour de Dieu. L'idée qu'on a de Dieu ne peut pas être la mesure de l'amour qu'on porte au prochain. Par contre, s'aimer soi-même, ça, c'est vraiment le pieux, comme dit le Père Cantalamessa, un pieux très, très clair et très, très net de notre amour du prochain. C'est-à-dire que celui qui ne s'aime pas, comment voulez-vous qu'il aime son prochain? Il faut apprendre vraiment à s'aimer soi-même pour grandir dans l'amour de l'autre. Mais s'aimer soi-même, c'est pas d'une façon égoïste. Hein. S'aimer soi-même dans la lumière de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Avoir beaucoup de compassion sur soi-même. Mais avec Jésus, au chapitre 15, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Autrement dit, on passe d'une relation à deux à une relation à trois. Comme moi, je vous ai aimé, vous, aimez-vous. La façon, ce que Dieu t'a fait, toi, fais-le à l'autre. Voilà le régime de la grâce. J'ai été aimé de Dieu, de toute éternité. Je suis dans une dette infinie, si vous voulez, vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu a placé sur mon chemin le prochain, pour qu'en aimant mon prochain, je puisse manifester à Dieu mon amour pour lui. Et Saint Jean le dit, celui qui affirme aimer Dieu mais qui n'aime pas son prochain qui est à côté de lui, est un menteur. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3. Et vous voyez, la façon dont tu auras agi avec l'autre, Dieu te l'appliquera à toi. On ne compte plus les paroles de Jésus et des apôtres qui répètent ce précepte et ce concept-là. Comme Dieu nous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à vos ennemis, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas non plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes déjà pardonnés. Donc on comprend, vous voyez, la parabole du serviteur. Et voilà, pour vous exprimer cela, une parole de Sainte Catherine de Sienne dans les dialogues. Le dialogue numéro 64. C'est Jésus qui parle à Sainte Catherine. « Je vous demande de m'aimer du même amour dont je vous aime. En vérité, vous ne le sauriez faire complètement. Moi, je vous ai aimé avant d'être aimé de vous. Et dès lors, tout amour que vous avez pour moi est une dette que vous acquittez, non une grâce que vous me faites. » Vous savez, quand on dit à Dieu qu'on l'aime, on ne lui fait pas une grâce comme ça, comme s'il attendait comme ça. Non. Nous ne faisons, comme le dit Jésus là, à Sainte Catherine de Sienne, « Tout amour que vous avez pour moi est une dette que vous acquittez, non une grâce que vous me faites. » Tandis que l'amour que j'ai pour vous est une faveur que je vous accorde, mais que je ne vous dois pas. C'est brûlant, hein, ça, comme parole. C'est brûlant parce que c'est vrai. Vous ne pouvez donc me rendre à moi l'amour que je vous réclame. Mais je vous ai placé à côté de votre prochain pour vous permettre de faire pour lui ce que vous ne pouvez faire pour moi. L'aimer par grâce et avec désintéressement, sans en attendre aucun avantage. Je considère alors comme fait à moi ce que vous faites au prochain. La logique du Christ, la logique de Jésus, c'est, si vous voulez, comme... S'il disait, voilà ce que j'ai fait pour vous, avant toute chose, vous ne pouvez pas me le rendre comme tel. Alors je place à côté de vous votre prochain. Et l'amour que vous aurez pour votre prochain, avec désintéressement, gratuité, et il n'y a pas de plus grande gratuité que le pardon, et bien je considère que c'est à moi que vous le faites. Et c'est pour ça qu'on comprend cette cinquième demande. Pardonnez-nous nos offenses, parce que vous nous avez déjà antérieurement pardonné. Mais comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, il y a comme un cercle, si vous voulez. Vous voyez, et une proportion. Qui est exprimé par Saint Jacques. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. C'est-à-dire, le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, qui n'a pas pardonné, c'est-à-dire qui n'a pas exercé cet amour de miséricorde que lui-même a reçu de Dieu. Mais celui qui a été miséricordieux, c'est bien, il a, en expérimentant la miséricorde, a découvert de plus en plus l'amour dont il a été aimé, la miséricorde de Dieu pour lui. La miséricorde se moque du jugement. Parce que l'acte du pardon est un acte de miséricorde, et parce que la miséricorde est un acte d'amour, nous devons comprendre qu'il y a un certain cercle. C'est exprimé dans la parabole du débiteur impitoyable en Matthieu 18, 23-31. Alors je vous laisse lire cette référence, parce que là je n'aurai pas le temps de vous la lire. Je vous ai fait cela, je vous ai pardonné. Faites-le à votre tour, pardonnez vous-même. Car c'est ainsi que je vous jugerai à mon tour. Mais le problème, c'est que nous avons du mal à grandir dans le pardon et qu'il faut en demander la grâce. Vous voyez, il y a comme un cercle. Un cercle. Mais un cercle vertueux par lequel on monte. Voyez, et qu'il nous faut, en fait, faire cette prière. Mon Dieu, pardonnez-moi. Et donnez-moi de mieux pardonner, afin que vous puissiez mieux me pardonner. Mon Dieu, pardonnez-moi, et donnez-moi de mieux pardonner, afin que vous puissiez mieux me pardonner. Voilà le cercle. Le cercle de la grâce, le cercle vertueux de la grâce. Quand vous allez vous demander pardon, recevoir le sacrement du pardon, vous recevez une force, mais qui n'est pas simplement la force de ne plus pécher, ou de grandir un peu plus dans la perfection. Vous savez, vous pouvez avoir une vision étriquée et individualiste de votre foi, parce que sinon vous n'allez plus y arriver. Vous recevez aussi la force de vivre le pardon que vous avez reçu. Et en vivant le pardon que vous avez reçu, parce que vous avez expérimenté le fait d'être pardonné, ben peu à peu vous grandissez dans le pardon que vous êtes capable de donner. Et vous savez que vous-même, vous serez de plus en plus pardonné. Le conseil... Ah oui, voilà. Une dernière citation de journée. Quelquefois, on a du mal à dire cette demande. Pardonnez-nous comme nous pardonnons. J'ai du mal à demander pardon. Mais n'oubliez pas que quand nous disons le Pater, nous le disons avec toute l'Église et nous nous appuyons sur les membres de l'Église. C'est ce que veut dire journée. C'est l'Église qui te demande de dire le Pater. L'Église. Si tu ne peux pas pardonner maintenant, tu pourras peut-être un jour. Commence d'abord à dire le Pater au nom de l'Église tout entière. Et tu pourras dire alors, pardonnez-nous comme nous pardonnons. Oui, que Dieu nous pardonne, comme eux, les fidèles, réussissent à pardonner. Ça, c'est la communion des saints. Je sais qu'il y en a dans l'Église qui ont cette force du pardon. Je sais qu'ils ont reçu cette grâce de pardonner. J'ai expérimenté le pardon reçu de quelqu'un de l'Église. Alors Seigneur, je m'appuie sur leur mérite, je m'appuie sur cette force du pardon que tu répands dans l'Église, dans certains membres de l'Église, et au nom de l'Église, je te dis, Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moi, je ne réussis pas encore, mais peut-être qu'un jour, je pourrai de nouveau être au milieu d'eux, être dedans, tandis que maintenant je me sens encore dehors. Et je pourrais dire vraiment le Pater, mais je commence déjà à le dire au nom de l'Église. Voilà, le don qui s'attache à cette demande, c'est le don du conseil. Le don du conseil nous fait voir, sans erreur, ni hésitation possible, l'attitude que l'amour de Dieu et du prochain réclame de nous. conseiller. Qu'est-ce que je dois faire pour aimer? Quels sont les meilleurs moyens que je dois faire pour aimer cette personne qui m'a offensé? Comment lui dire, comment entrer dans un dialogue et dans un pardon, dans une demande de pardon? On a besoin de l'Esprit Saint et du don de conseil de l'Esprit Saint. Et il faut le demander, voyez. Viens, Esprit Saint, et conseille-moi sur ce que je dois dire, la parole que je dois dire. Comme le dit le Père d'Escouvent, on dit, une manière merveilleuse de pardonner, c'est de dire, tu sais, si j'avais été à ta place, je pense peut-être que j'aurais fait pire. Voilà. Il nous dit ce qu'il faut faire dans telle situation particulière, souvent inattendue. Et enfin, le don de conseil nous aide à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens pour l'accomplir. Petit conseil de lecture. Alors, il y a un livre que j'ai trouvé là, ici à la librairie, qui est un merveilleux petit livre. Tout petit, qui se dévore, une petite lecture de vacances qui vous donne un rafraîchissement spirituel extraordinaire, Eros et Agapé, les deux visages de l'amour de Raniero Cantalamessa. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup à la librairie. Et peut-être qu'on en commandera d'autres. Mais c'est un très très beau petit livre. C'est les méditations de retraite au Vatican en 2011, je crois. C'est très simple, c'est très beau, c'est suave. Vous prenez ça sur la plage, ou je ne sais pas où, sur votre transat à la montagne, et puis vous le lisez, et c'est tellement simple et bien écrit et profond que vous avez envie de le relire. Voilà. Et le deuxième, celui dont je vous ai parlé, dont j'ai retiré au début de cette méditation le texte, je ne sais pas s'il se trouve encore, par contre, je ne sais pas s'il est réédité. Pascalide, est-il possible de pardonner? Est-il possible de pardonner? Très beau petit livre. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine. Attendez.